Allez, 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
Les soldats américains présents au Sahel sont en train de plier bagages. Ils quittent le Tchad. Après l'annonce en fin de semaine dernière d'un retrait temporaire, ils quittent le Niger suite à un accord conclu quelques jours plus tôt. Et avant eux, bien, ce sont les Français qui ont multiplié les retraits, départ du Niger, après le Burkina Faso et le Mali. L'heure est au bilan. Avec cette question, ce soir, les Occidentaux ont-ils échoué au Sahel? C'est la question que nous posons dans le débat du jour. Les interventions étaient censées repousser le djihadisme, or celui-ci a progressé. Dès lors, quels sont les motifs de satisfaction des différentes opérations et quelles perspectives au Sahel? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Niagale Bagayoko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network, l'ASSN, qui est un réseau panafricain d'experts et d'organisations qui tentent de promouvoir une gouvernance plus démocratique de la sécurité sur le continent africain. Face à vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, directeur de recherche de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des conflits sur le continent africain. Je vais citer l'un de vos ouvrages, le dernier, qui a été publié en 2022, c'est bien cela, intitulé « Un djihad sans foi ni loi, la guerre contre le terrorisme à l'épreuve des réalités africaines ». Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors déjà, pourquoi ces retraits annoncés des troupes américaines au Sahel, donc annoncés coup sur coup au Niger puis au Tchad, Niagale Bakayoko, est-ce que c'est la suite du retrait français de ces derniers mois, ces dernières années qu'on a observé d'abord au Mali, puis au Burkina, puis au Niger?
Moi, je dirais plus exactement que c'est la même logique que celle du retrait français et que, justement, cette focalisation sur ce qu'on appelle ce fameux sentiment anti-français masque une réalité qui est beaucoup plus large et qui est perceptible depuis un certain nombre d'années. Le Niger est un pays très intéressant de ce point de vue-là. Ça fait un grand nombre d'années, enfin en tout cas 4 ou 5 ans, que moi j'ai pu constater sur le terrain, dans le cadre de mes recherches, une hostilité face à toute présence militaire étrangère. C'était formulé de manière assez récurrente, assez insistante, et je le précise, pas uniquement par cette fameuse jeunesse qu'on met en avant comme étant la principale force d'hostilité vis-à-vis des forces occidentales, mais non, une forme de rejet assez intergénérationnel en considérant qu'il y avait d'une part un échec collectif de tous les acteurs extérieurs, et pas seulement sur le front militaire, mais également sur le front du développement, sur le front de l'ingénierie institutionnelle, en considérant que les partenaires internationaux, il est vrai occidentaux ou plus exactement transatlantiques, parce qu'il y a aussi de nouveaux partenaires occidentaux, je pense à la Hongrie par exemple, de plus en plus présente au Tchad par exemple, hein, qui s'insèrent, mais aussi les partenaires multilatéraux à travers ce rejet à la fois des Nations Unies, mais aussi des organisations multilatérales africaines comme l'Union africaine ou la CDEAO, avaient échoué en fait dans leur entreprise pour lutter contre l'insécurité et notamment le djihadisme.
On parle du sentiment anti-français au Sahel. Vous parlez d'abord de sentiment anti-étranger?
Je ne dirais pas anti-étranger, parce que ça reviendrait à individualiser l'hostilité. Moi, je ne pense pas que, contrairement à un épisode qu'on évoque trop peu, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire dans les années 2000, où il y avait physiquement une agressivité vis-à-vis des Français, on n'est pas dans cette prise à partie. On est vraiment dans la contestation des politiques démocratiques et libérales qui ont été mises en œuvre et présentées comme les solutions à l'insécurité endémique de la région. Mais le problème est que cette insécurité a été uniquement réduite à la question de la lutte contre le djihadisme, alors qu'elle était beaucoup plus multifonctionnelle. Il y a des groupes d'autodéfense, il y a des groupes politico-militaires, il y a également des acteurs criminels que les les Sahéliens appellent très souvent des bandits. Et les politiques qui ont été promues se sont uniquement concentrées sur les problématiques qui intéressaient les partenaires extérieurs, que ce soit l'émigration, que ce soit sur le plan sociétal, la promotion des questions de genre ou d'inclusivité des minorités sexuelles, aux grandes dames de populations qui sont souvent très conservatrices de ce point de vue-là. D'où aussi l'audience de puissances extérieures. On parle beaucoup de la Russie, mais pensons aussi à tous ces acteurs moyen-orientaux, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite ou à l'inverse de son concurrent le Qatar, de la Turquie, voire d'Israël aussi, hein, d'ailleurs, dans certaines zones, qui gagnent en importance parce que aussi ils ont des visions alternatives de la société et s'inscrivent aussi très souvent dans le champ du religieux, ce que ne font pas ces acteurs traditionnels.
Et parce qu'évidemment, il y a une place à prendre désormais avec le retrait des Occidentaux. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il y a un rejet global de tout ce qui est occidental aujourd'hui au Sahel. Est-ce que c'est pour ça que finalement les États-Unis n'ont d'autre choix que de retirer leurs troupes du Niger et du Tchad?
Alors je nuancerais parce que les conditions de départ sont quand même pas les mêmes entre Tchad, Niger ou même Burkina et Mali. Et puis d'autre part, ce rejet des forces occidentales, c'est aussi un instrument de légitimation pour des juntes militaires qui n'ont d'autre légitimité que justement de mettre en avant leur besoin de souveraineté nationale, leur rejet de l'ancien colonisateur, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, c'est pas l'ancien colonisateur, mais on a beaucoup joué là-dessus au Niger et puis au Mali et au Burkina Faso.
C'est le point commun entre ces trois pays, on le rappelle, c'est que ce sont des juntes militaires au pouvoir.
Ce sont des juntes militaires au pouvoir depuis assez récemment, finalement, au cours de 2-3 années passées. Il y a eu comme ça toute une série de coups d'État. Il faut noter aussi que ces juntes militaires ont peur de leurs propres forces armées, donc elles sont aussi en demande d'autres appuis sécuritaires. Et si la France ou les États-Unis ne leur fournissent pas vraiment les gardes prétoriennes dont ils ont aussi besoin pour conserver le pouvoir, ils feront appel à d'autres, notamment les Russes, en l'occurrence au Niger, au Burkina ou au Mali. Sur le Tchad, c'est un peu différent. Il y a encore une présence militaire française extrêmement forte, 1500 hommes à peu près. Donc là, ça se décline d'une autre manière. Et où là, on a encore du mal à comprendre exactement pourquoi les Tchadiens veulent se débarrasser des Américains. Est-ce que ce n'est pas aussi, avec l'arrivée des Hongrois, une manière de montrer aux Français qu'ils peuvent avoir, qu'il y a plusieurs guichets auxquels ils peuvent s'adresser, ce qui permet aussi de placer le Tchad, après ce qui s'est passé au Niger, au Burkina, au Mali, comme un acteur régional absolument incontournable pour les Occidentaux, ce qui permet aussi d'avance de désamorcer les critiques sur les élections à venir, dont on connaît déjà parfaitement les résultats, puisqu'en l'occurrence, c'est le fils du précédent dictateur militaire qui va l'emporter, et en cela, je n'apporte aucune nouvelle particulière.
Alors, on va revenir aux origines des interventions occidentales au Sahel 2013, Serval, plus grande opération depuis la guerre d'Algérie menée par la France à l'étranger. À l'époque, il y a cette poussée djihadiste au Mali, d'où la mise en place de Serval. Et l'objectif, c'était repousser cette menace djihadiste. Aujourd'hui, la zone d'influence des groupes djihadistes touche le Mali, mais aussi le Niger, le Burkina Faso, même plusieurs États du Golfe de Guinée. Dès lors, on répond à notre question, est-ce que les Occidentaux ont échoué ? Oui, ils ont échoué, Niagale Bakayoko.
Mais c'est un échec collectif, à mon avis. Les Occidentaux ont en effet échoué, et surtout ont affirmé de manière beaucoup trop ambitieuse, pour ne pas dire prétentieuse, leur capacité à éradiquer le terrorisme. Non pas seulement au Sahel, mais ils l'ont fait sur la plupart des théâtres où ils sont intervenus depuis le début des années 2000, et ils ont échoué sur tous ces théâtres. Et à mon avis, le Sahel n'est que le dernier en date où on ne pouvait pas leur laisser le droit à l'erreur. C'était leur dernière chance, finalement, de démontrer que ces différentes approches, que ce soit le recours à la lutte antiterroriste, le recours à la lutte anti-insurrectionnelle, qui n'est pas du même ordre, ou le recours à des opérations de paix multidimensionnelles intégrées, n'étaient pas des instruments capable de prendre en considération la complexité des contextes locaux qui les ont en fait totalement submergés. Donc oui, il y a cet échec occidental, mais je parlais des organisations multilatérales africaines, elles sont aujourd'hui aussi en très mauvaise posture en raison également de l'incapacité de leurs différents instruments de gestion des conflits à faire face aux réalités de l'espace sahélien. Et enfin, pour terminer, on a mentionné le Tchad, c'est un cas extrêmement intéressant qui démontre justement qu'on n'est pas, à mon avis, dans cette espèce de nouveau scramble of Africa, de partage de l'Afrique par des grandes puissances. On est avant tout, à mon avis, dans des stratégies extrêmement opportunistes de la part des États africains eux-mêmes qui placent désormais avant tout leurs propres intérêts plutôt que la satisfaction des attentes de différents alliés internationaux. Et le Tchad l'a très bien compris. Le Tchad est quand même le pays où a été installé en violation de la Constitution une junte militaire avec le comité militaire de transition qui plus est dans le cadre d'une transition dynastique puisque c'est le fils du président déchu qui a été installé, et la France a immédiatement validé ce changement. Et ça, c'est quelque chose qui ne lui a pas été pardonné sur le théâtre sahélien, puisqu'on a mis ça au regard de son intransigeance, notamment vis-à-vis du Mali. Et le Tchad fait pourtant, malgré tout, aujourd'hui monter les enchères en faisant preuve finalement d'assez peu de reconnaissance vis-à-vis de son allié indéfectible qu'est la France.
Globalement, est-ce que les Occidentaux ont fait le mauvais choix de ne vouloir discuter qu'avec les autorités au pouvoir, de rejeter finalement les auteurs des coups d'État et de fixer comme une ligne rouge de ne pas discuter avec les chefs djihadistes ?
Alors, cette question de la ligne rouge, elle est effectivement absolument essentielle. Puisqu'on s'aperçoit que toutes les lignes rouges, mais pas seulement celle du dialogue, hein, qui en effet est une question majeure, mais par exemple la ligne rouge de la non-arrivée des Russes, hein, a été elle aussi dépassée. La ligne rouge également de cette question fondamentale au Mali, notamment de la relation avec les groupes autonomistes du nord du pays. Oui, effectivement, on s'aperçoit que cette option de la négociation, du dialogue, des pourparlers avec les chefs djihadistes qui, il faut le rappeler, avaient été recommandés non seulement au Mali à travers les différentes conférences nationales et reprises à son compte par le président Ibeka, mais qui a été aussi tentée par le président de la transition Damiba, qui a essayé d'engager aussi des dialogues au niveau local et qui était aussi revendiqué par le président Bazoum, a finalement été mise de côté par les partenaires occidentaux, à commencer par la France. On se souvient de l'échange très tendu entre Jean-Yves Le Drian et le Premier ministre de l'époque, Mokhtar Ouane. Mais le paradoxe aujourd'hui est que finalement, les États, les régimes au pouvoir dans les trois pays du Sahel central se détournent de cette approche de la négociation aussi et choisissent eux aussi une stratégie du tout militaire, très inspirée de celle qui avait été adoptée par la France.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, j'aurais juste vous faire réagir parce que l'heure tourne, on a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, la question ce soir, c'est est-ce que les Occidentaux ont échoué au Sahel ? Je rebondis sur ce qu'a dit dans sa première intervention Niagale Bakayoko en évoquant un échec militaire et un échec du développement parce que ce que la France a voulu mettre en place à partir de 2013, c'est une coopération civilo-militaire et effectivement, il y reprochait à la France d'avoir accordé trop de place au volet sécuritaire au détriment de l'accompagnement du développement des pays concernés, c'est-à-dire Mali, puis Burkina et Niger. Est-ce que c'est
la
vraie raison de l'échec de la France ?
Oh, il y a plein de raisons et on n'a pas le temps là d'en discuter puisque l'heure tourne, comme vous l'avez dit vous-même. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que l'échec, il est multidimensionnel, hein, à la fois sur le plan social, diplomatique, économique et politique et militaire. Néanmoins, le président Emmanuel Macron, l'année dernière encore, dans une interview au Point, parlait d'un succès à propos de Barkhane, qui était quand même notre plus gros au déploiement outre-mer de l'armée française depuis la guerre d'Algérie, c'est pas rien. Et moi, ce qui me frappe, et on avait récemment à la Sorbonne un colloque à ce sujet sur le bilan confisqué de Barkhane, c'est que les pouvoirs publics ne veulent pas tirer les leçons de ces échecs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion collective qui s'est vraiment engagée pour voir là où ça n'a pas fonctionné. On est même plutôt souvent dans le déni de réalité. Excusez-moi, quand on parle de Barkhane comme d'un succès, j'ai l'impression d'écouter la Pravda. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de crédibilité du coup de la France à nier effectivement l'échec, alors que le ressenti des Africains, c'est bien que ça n'a pas fonctionné. Et c'était d'autant plus frustrant que c'était l'ancienne puissance coloniale qui intervenait et que c'était humiliant, 60 ans après les indépendances, de faire appel justement à l'ancien colonisateur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont joué. On n'a pas le temps de revenir aussi sur
c'est toute ça, l'histoire. Est-ce que la France a du mal à se confronter à son histoire, finalement, son de certaine manière, dans cette...
Et
dans
la question, c'est aussi pourquoi est-ce que c'est absolument la France qui devait intervenir dans son précaré africain? Pourquoi pas d'autres? L'Union européenne n'a pas tant suivi que ça, sans doute parce que justement, là, il y a une dramatisation des menaces et de l'intérêt national de la France sur cette zone du monde. Et aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, l'intérêt national est davantage menacé par ce qui se passe en Ukraine ou en Palestine et en Israël. Et on voit bien que, bon, l'intérêt national, il peut aussi se conjuguer à certaines fenêtres d'opportunité, de faisabilité qu'on a cru être possible dans des États faibles au Sahel, alors même que c'est précisément parce que c'était des États faibles que les défis étaient immenses et visiblement en fait insurmontables pour l'ancienne puissance coloniale. Moi, ce qui me frappe sur l'échec de Barkhane, c'est qu'il n'y a pas de réflexion collective à ce sujet et qu'on n'essaye pas d'en tirer les leçons pour essayer de repenser notre relation au précaré. Alors, on dit l'Afrique en France, mais quand on dit l'Afrique, en fait, on pense au précaré africain francophone, notre relation à l'ancien monde, aux anciennes colonies françaises. Or là, je crois que justement, c'est aujourd'hui un des débats qu'il y a dans le monde académique. Est-ce que la fin de Barkhane, c'est un point de non-retour? En tout cas, on a franchi un cap. Il est vraiment plus que temps de reposer les questions et les termes du débat sur cette relation à l'ancien monde colonial africain de la France.
Tirer les enseignements, faire un examen de conscience.
Faire un examen de conscience, une introspection qui n'a pas... Il n'y a même pas eu de retour d'expérience institutionnelle à l'armée française, me dit-on.
Dix ans d'intervention militaire au Sahel de la part de la France environ... Qu'est-ce que la France a apporté au Sahel?
je suis pas capable de répondre à cette question sur un temps trop court.
Non, parce qu'on parle d'échecs, mais alors il y a eu des avancées.
C'est-à-dire?
On parle d'échecs, évidemment, la France n'a pas su repousser les groupes djihadistes, mais en 10 années de présence, il y a des choses positives à retirer.
C'est compliqué. Non, mais il y a une chose, il y a un paradoxe quand même de cette lutte contre le terrorisme, c'est qu'elle a renforcé des régimes, pour certains, très autoritaires, corrompus, et elle a finalement, en facilitant le tout sécuritaire, quelque part préparé, je sais que ça peut sembler assez extraordinaire, mais finalement les conditions d'un retour des militaires au pouvoir, militaires qui montaient en puissance, sans pour autant... répondre aux attendus de régimes parlementaires et démocratiques, puisque c'est ça qui est vraiment frappant. Les présidents au pouvoir au Sahel, qu'ils soient militaires ou civils et élus, ont peur de leurs propres forces armées. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas pourquoi la faiblesse... Ils ont peur de leur capacité de nuisance, ils ont peur de la mutinerie, ils ont peur du coup d'État. Donc ils ne sont pas toujours très partants, en fait, pour qu'il y ait une réforme des appareils sécuritaires qui renforce justement la capacité de ces appareils militaires au nom de la lutte contre le terrorisme et qui, du coup, donne aussi plus de pouvoir à ces militaires. Et quelque part, je trouve que l'expérience de Barkhane et la réponse par le biais du tout sécuritaire a quelque part donné aussi une force incommensurable à ces forces militaires qui se sont ensuite emparées du pouvoir.
Et est-ce que les interventions...
Avec un sentiment, juste terminé là-dessus, de retour à la case départ qui est quand même assez effrayant dans le cas du Mali, puisque quand la France intervient début 2013, à l'époque, les militaires se sont emparés du pouvoir à Bamako et l'idée, c'est aussi de restaurer l'ordre constitutionnel. Et 10 ans après, les militaires sont de nouveau au pouvoir à Bamako.
Pour poursuivre justement sur cette réflexion, est-ce que vous diriez, ou ce que vous diriez jusqu'à dire, que les Occidentaux ont, par leurs interventions, accentué l'instabilité politique dans les pays concernés? Parce qu'il y a eu ces dernières années, effectivement, un nombre record de coups d'État en tout cas dans les pays où la junte est au pouvoir.
Disons que, en tout cas, l'injection de nouvelles ressources, notamment des nouvelles ressources de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, de la coopération militaire, a aussi provoqué des conflits pour capter ces ressources. Et ça, c'est un élément effectivement assez déstabilisateur, mais c'est pas propre à la France et c'est pas propre au Sahel. C'est des choses qu'on voit aussi dans l'aide au Soudan, dans l'aide à la Somalie. Ça, c'est des problèmes assez structurels finalement. Donc, il y a à la fois une volonté de stabiliser, mais la volonté de stabiliser, effectivement, peut avoir des effets pervers déstabilisants. Ça, c'est pas, encore une fois, spécifique à cette zone du monde.
Romain Ozoui.
Les Occidentaux ont-ils échoué au Sahel ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors que les Américains ont annoncé un retrait temporaire du Tchad, des soldats qui sont présents au Tchad, après avoir annoncé dans ce même sens un retrait des troupes qui sont présentes au Niger. Et évidemment, ça fait écho au départ en cascade ces dernières années, ces derniers mois, des troupes françaises du Niger, du Burkina et du Mali. Mes deux invités, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qu'on vient d'entendre, politologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des conflits sur le continent africain, et Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, l'ASSN, réseau panafricain d'experts et d'organisations qui tentent de promouvoir une gouvernance plus démocratique de la sécurité sur le continent africain. Alors vous êtes d'accord tous les deux pour dire que c'est un constat d'échec qui est attiré globalement des interventions des Occidentaux, un peu plus de 10 ans au Sahel. Maintenant, Niagale Bakayoko, j'aimerais qu'on se projette sur le Sahel de demain, justement, sans Occidentaux, ce Sahel qui se vide de la présence occidentale, la présence russe qui, évidemment, grandit. À quoi ressemblera le Sahel de demain sans les Occidentaux ?
Alors moi, je ne pense pas justement qu'on puisse considérer qu'il n'y a plus d'Occidentaux aujourd'hui au Sahel et qu'il n'y en aura plus.
Mais pour le moment, il y a ce retrait.
Parce qu'un autre échec, il y a le retrait de certains acteurs qui ont justement
beaucoup
d'accès.
Bien sûr, ils sont présents au Tchad, ils sont présents dans plusieurs pays du continent, certains Français.
Non, c'est pas ce que je voulais dire en réalité. Ce qui est très notable dans l'échec dont on parle, c'est aussi la façon dont le front très commun des pays occidentaux s'est fracturé en réalité. Il y a beaucoup d'États européens qui sont très mécontents de s'être laissés entraîner dans l'approche, en effet, avant tout sécuritaire, qui était promue par la France. On voit de grandes contestations au niveau de l'Union européenne. Le cas de l'Italie est très intéressant. L'Italie a encore des forces armées au Niger. Vont-elles rester ? Giorgia Meloni le souhaite parce qu'elle sait très bien qu'il en va de sa politique migratoire. Il ne faut pas oublier que l'une des premières décisions qui a été prise par les autorités civilo-militaires du Niger a été de remettre en question l'accord passé avec l'Union européenne en matière migratoire qui externalisait cette frontière européenne.
L'enjeu des vagues migratoires
est absolument essentiel.
Il a été maltraité, entre guillemets, en deux mots, lors des interventions françaises. En tout cas, c'est le constat qui s'était imposé. Ce que je veux dire, c'est que c'est la présence italienne au Sahel. Oui, mais elle est sans commune mesure avec ce qu'a été Serval au Barkhane.
Absolument, et ce n'est pas l'ambition. C'est-à-dire que, sans parler de l'Italie, des acteurs comme l'Allemagne, des acteurs comme les Pays-Bas, des acteurs comme les pays scandinaves également, veulent rester dans la zone en disant « mais nous, finalement, nous avons été dans cet espace de très longue date avec des programmes qui ont plutôt été appréciés généralement des populations et nous voulons y demeurer. » Et cet échec de l'approche essentiellement sécuritaire démontre que finalement c'est nous qui avions raison et qui peut-être comprenions mieux l'environnement local, ce dont je ne suis pas certaine. Moi je pense qu'il y a une reconfiguration des acteurs occidentaux, une reconfiguration des acteurs multilatéraux aussi. Les Nations Unies ne vont pas pouvoir continuer à avoir le même titre de présence que celui qu'elles ont eu jusqu'ici, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auront plus du tout de présence. Mais moi, je ne verrai pas un Sahel sans Occidentaux. Je verrai plutôt un Sahel avec différentes formes de présence occidentale. L'Espagne va rester engagée. L'Espagne a mené, notamment en matière sécuritaire, des programmes qui sont considérés comme ayant plutôt eu du succès à travers les Garci. Il n'est pas vraiment question de les remettre en cause.
Bien sûr, mais la présence majeure, elle reste russe. Et est-ce que cette situation des Occidentaux, aujourd'hui au Sahel que vous évoquez, la présence russe qui est très importante, ça peut permettre au Sahel de tendre vers davantage d'apaisement, de stabilité politique, mais surtout de lutte contre le djihadisme ?
Alors, lutte contre le djihadisme, absolument pas. On ne voit pas qu'encore une fois, cet acteur qui reste, qu'on le veuille ou non, extérieur au continent, ait beaucoup plus de succès dans la lutte contre le djihadisme. Là où la Russie a très clairement eu un véritable succès, c'est dans l'appui qu'elle a apporté à l'armée malienne dans sa lutte contre les groupes autonomistes armés du nord du Mali. Ça oui, mais pas sur le front anti-djihadiste. Donc cette question de la Russie, à mon avis, il ne faut pas avant tout l'envisager d'un point de vue militaire, il faut surtout l'envisager...
D'un point de vue politique ?
D'un point de vue informationnel, beaucoup.
Et diplomatique.
C'est sur ce front-là qu'il y a de très grands succès, avec effectivement l'application de méthodes de propagande qui sont usitées depuis l'époque des débuts de l'URSS, qui sont reconverties aujourd'hui, qui sont aussi utilisées pour pénétrer certains réseaux des sociétés civiles ou des médias. Et c'est là, à mon avis, que la Russie a le plus grand impact, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant même les coups d'État, les régimes civils avaient déjà la Russie pour premier partenaire en matière d'armement, tout simplement parce que ces matériels sont beaucoup plus rustiques et adaptés au type de théâtre qu'est l'environnement sahélien.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, puisqu'on évoque ce soir le bilan des Occidentaux dans la lutte contre le djihadisme, puisque c'était la raison d'être des interventions occidentales au Sahel, est-ce que vous êtes inquiet pour le Sahel de demain, vu la configuration actuelle, et qu'a très bien détaillé Niagala et Akayoko?
Oui, bien sûr, comment ne pas être inquiet? Enfin, quand on parle du Sahel, en France, c'est toujours la même chose, on parle du Sahel occidental et du G5, et donc d'anciennes colonies francophones. Pour ce Sahel-là, mais après tout, il y a un autre Sahel, et on a aussi d'autres raisons d'être inquiet du côté du Soudan et de l'Éthiopie, mais ce n'est pas le sujet de ce débat de ce soir. Mais en tout cas, pour les trois pays dont on parle le plus souvent, la Burkina, Mali et Niger, il y a d'autant plus de raisons d'être inquiet qu'au Niger, le président Bazoum avait vraiment impulsé une politique qui laissait entrevoir un espoir. Il y avait des signaux assez positifs, que ce soit en matière d'éducation des filles, de lutte contre l'analphabétisme, de prévention des tentations radicales islamistes, etc. Et tout ça est tombé à bas avec un gouvernement militaire dont on ne voit pas très bien s'il a d'autres buts que de se servir dans les caisses de l'État. On a vraiment l'impression de pouvoir extrêmement prédateur. Alors, je ne pense pas que les groupes djihadistes soient eux-mêmes suffisamment organisés pour s'emparer du pouvoir dans les capitales de ces pays du Sahel. En revanche, ce qu'on voit, c'est quand même un délitement de l'État dans cette région. Mmh. Et ce qui me fait le plus peur, moi, c'est finalement cette série de coups d'État. Elle déconstruit complètement les chaînes de commandement militaire. À partir du moment où vous avez des généraux qui renversent un pouvoir civil mal élu, certes, puis ensuite c'est des colonels qui s'emparent du pouvoir, qui renversent les généraux, puis un capitaine dans le cas du Burkina Faso. Le prochain, ça sera qui ? Un sergent ? Un troufion ? Vous voyez, les chaînes disciplinaires dans ces armées, et c'est aussi un vrai problème de fond, sont extrêmement fragmentés. Alors face à eux, il y a des groupes qui sont eux-mêmes fragmentés. Et si aujourd'hui, finalement, ça tient à peu près dans les capitales, c'est aussi que les groupes djihadistes s'entretuent de leur côté. Donc ils font le boulot des armées, en quelque sorte. Mais combien de temps ça va tenir, tout ça ? Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est finalement des luttes factionnelles au sein des armées, au sein des capitales. Pas tant une prise des capitales par les groupes djihadistes qu'effectivement un délitement de l'État jusqu'au niveau de bataille de rue entre autrefois Bamako, Béret Vert et Béret Rouge, et puis demain d'autres factions qui vont apparaître dans ces pays.
Car il manque clairement un contre-pouvoir. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Niagala Bakayoko qui dit que finalement les Occidentaux ont encore vraiment un rôle à jouer dans la région ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'ils n'ont pas du tout disparu complètement de la scène. D'abord, Niagala le disait bien, il y a encore des Espagnols, des militaires allemands et italiens au Niger. Et d'autre part, on a du mal à comprendre et vraiment à percevoir, il n'y a pas de sondage et encore moins d'élections, pour savoir exactement dans quelle mesure il y a une vraie détestation du monde occidental, qui reste quand même aussi un modèle, ne l'oublions pas, y compris pour la migration, qui est un enjeu dont on parle assez peu, mais qui est absolument indissociable aussi de la question du djihadisme
et on l'a dit,
et de la lutte contre le
terrorisme. C'était une raison, endiguer les vagues de migration vers l'Europe, c'était une des raisons des interventions des Occidentaux au Sahel. Merci beaucoup à vous deux, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des conflits sur le continent africain. Votre ouvrage, Un djihad sans foi, Niloua, la lutte contre le terrorisme à l'épreuve des réalités africaines. Niagalaba Kayoko, merci. Présidente de l'African Security Sector Network, réseau panafricain d'experts et d'organisations qui tentent de promouvoir une gouvernance plus démocratique de la sécurité sur le continent africain. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation, merci à la documentation de Radio France Internationale. Et puis rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour.
RFI Soir.
Allez, coup d'œil à la pendule dans une minute, ce sera le journal de 20h, puis mardi politique. Fabrice Leggeri, candidat du Rassemblement National aux élections européennes, sera notre invité. 20h30 Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Allez, au programme ce soir.
Au programme ce soir, deuxième journée de la première visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi à Paris, journée marquée par un déjeuner à l'Elysée avec son homologue Emmanuel Macron avant de participer à un forum économique. Notre dossier également nous conduira cette fois au Gabon où les conclusions du dialogue national ont été remises au général Oligui Nguema, le président de la transition, conclusion qui comporte de nombreuses recommandations sur